Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet espace pour l'une des dernières rencontres de cette foire du livre de Brive 2023 et un événement qui n'est pas n'importe lequel puisque j'allais dire qu'on est en compagnie, allez, celui, je me permets le surnom, du patron d'une certaine manière. À savoir, vous l'avez tous reconnu, Christian Signol. En effet, bonjour Christian. Merci d'être présent dans ici même pour cette nouvelle rencontre. Je crois que vous êtes, c'est le moins qu'on puisse dire, un habitué de l'exercice ici à Brive dans le cadre de la Foire du Livre. Vous en êtes à peu près à combien de rencontres ici depuis toutes ces années?
Presque 40. Ça a commencé dans les années 70, mais je n'étais pas écrivain encore. La première année où j'ai signé des livres, c'était en 1984. Pour le livre qui s'appelait Les Cailloux Bleus, ça date pas d'aujourd'hui, vous voyez. Et c'est un livre qui avait beaucoup, beaucoup marché à l'époque, mais évidemment, la foire n'avait pas la dimension de ce qu'elle a aujourd'hui.
Alors, en tout cas, donc, vous êtes vraiment un habitué et le public nombreux vient vous plébisciter d'année en année. Et on ne cesse, lorsqu'on regarde toujours le communiqué de presse ou les journaux le lendemain ou parfois sur le net dans la foulée, on est toujours impressionné de voir ce succès que vous avez en moyenne. Le Christian Signol annuel, c'est à peu près combien de ventes ici à Brive pendant les trois jours?
Un peu plus de 1000 livres sur deux jours et demi.
Oui, il faut se rendre compte que dans tous les événements, vous êtes un cas à peu près unique. C'est assez incroyable. En tout cas, c'est un succès énorme chaque année et un succès qui ne se dément pas. C'est certainement pas avec cet ouvrage, Une famille française, qui est le cru 2023, Christian Signol, que les choses vont changer. Parce que je vais vous le dire, votre roman est tout à fait remarquable.
Oui.
Ça fait toujours plaisir quand même.
Je vous remercie, oui, ça fait plaisir, oui.
Et il va certainement, encore une fois, toucher un très large public parce que l'histoire de cette famille française, c'est d'une certaine manière la vôtre, c'est la mienne, c'est celle de chacun de nous d'une certaine manière, car c'est pas moins d'une, on va dire, plus d'un demi-siècle. Presque trois quarts du siècle, un petit peu plus.
Même pas, sur trois générations,
ça fait, 60 ça fait trois
ans.
Générations. C'est ça, que vous explorez dans ce roman plurigénérationnel et dans lequel on se reconnaît très, très facilement. Justement, on va commencer par là, tiens, Christian Signol. D'où vous est venu le point de départ de cette histoire, en fin de compte, qui est très simple? Vous l'avez dit, hein, c'est l'histoire de plusieurs générations, point barre, d'une famille française.
C'est l'histoire de toutes les familles françaises qui sont passées en trois générations, c'est-à-dire 60 ans, de la paysannerie à l'université. Et ça représente énormément de monde. C'est l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de nombreuses familles que je connais. Et ça a été une révolution, enfin un parcours, un chemin extraordinaire, parce que les grands-parents, c'est-à-dire les premiers des années 50-60, n'auraient jamais imaginé que leurs enfants, peut-être leurs enfants et leurs petits-enfants, vivent un jour dans les grandes métropoles, c'est-à-dire vivent une autre vie complètement différente et passent des campagnes vers les villes. Mais ça, c'est une évolution qui est naturelle depuis très longtemps, depuis l'exode rural, c'est-à-dire le 19e siècle, mais qui s'est accentuée d'année en année. Et c'est ce que... C'est assez dramatique. Conrad Lorenz disait que le plus grand drame du siècle dernier, c'était que l'humanité avait rompu ses liens avec le monde naturel, justement de ce fait-là. Et ça n'a fait que s'accentuer depuis. Et en rompant le contact avec le monde naturel, l'humanité avait du même temps rompu l'équilibre qui avait, pendant des siècles, assuré sa permanence.
Alors, on suit donc la vie de personnages de toute une famille, sur plusieurs générations donc, trois générations, un peu plus même. Mais c'est vraiment surtout à travers le parcours d'un personnage essentiel, Antoine. Pourriez-vous justement nous le présenter, Antoine?
Antoine, c'est un peu moi, enfin pas tout à fait, parce que moi j'ai pas été enseignant, mais il est né la même année que moi. Et il a été pour lui aussi au début difficile de faire des études. Et puis ensuite, il est parti au lycée, et puis en faculté, comme moi. Et puis il est devenu professeur, non pas à l'endroit où il est né, c'est-à-dire en Corrèze ou dans le département du Lot, mais en banlieue parisienne, ce qui était quand même extrêmement difficile. Et donc Antoine s'est marié à Paris. Il a eu des enfants qui, eux, sont les enfants... Je dirais de la modernité, c'est-à-dire de Internet, les réseaux sociaux, les influenceurs, etc., etc. Et donc, cette évolution est vraiment extraordinaire. On n'a pas mesuré encore la rapidité avec laquelle tout ça s'était effectué.
En fin de compte, c'est très peu, parce qu'on va voir, sans trop en dire sur le roman, l'évolution sociale des différents membres de cette famille. En fin de compte, c'est très rapide, parce qu'on part de très bas Et certains membres de la famille vont aller très haut très dans haut. La société.
Oui, c'est le cas. Mais c'est aussi le cas de beaucoup de familles, encore une fois. Hein. Comment dire, moi, mes grands-parents étaient paysans, mes parents n'étaient pas enseignants, ils étaient commerçants, mais tout, ma sœur et mes frères ont fait des études universitaires. Donc, effectivement, ça a été rendu possible, ça, souvent par l'obtention de bourses à ce moment-là, parce que les familles n'étaient pas très, très aisées à l'époque. Hein. Mais ça a permis quand même de franchir l'échelle sociale beaucoup plus vite que jamais personne ne l'aurait imaginé. C'est-à-dire mes grands-parents, si je leur avais posé la question à l'époque, ils auraient sans doute imaginé que nous serions devenus ou artisans ou commerçants, mais pas forcément professeurs ou d'université ou choses comme ça, hein, très probablement.
Alors, au départ, donc, dans cette famille, on est dans les années 50, il y a deux frères. Il y en a un qui va reprendre la tradition familiale, en tout cas qui va être vraiment au cœur du travail de la terre, et l'autre, donc, qui va...
Il s'en va.
C'est ça, justement. Est-ce que vous avez voulu, à travers le destin de ces deux frères, montrer toute la différence entre, la volonté d'aller ailleurs, le désir d'aller ailleurs, et, d'une certaine manière, pour l'autre, une sorte de conditionnement social
J'ai voulu montrer la différence de l'évolution de ces deux milieux sociaux entre la paysannerie et puis celui qui devient professeur de français. Il évolue...
Tout de suite à Paris, d'ailleurs.
Et en banlieue parisienne, oui. Mais il évolue beaucoup plus rapidement que son frère qui est resté à la campagne dans des conditions que nous connaissons extrêmement difficiles parce que la paysannerie des années 60, c'était la paysannerie du remembrement, de l'endettement, des engrais chimiques, dont la famille paye le prix, d'ailleurs. Et puis, finalement, d'un certain isolement qui ne permet pas d'évoluer aussi rapidement que le frère qui s'en va en ville. Et quand son frère Antoine, justement, revient de Paris, pour lui, le contact et la différence lui apparaît chaque fois et l'aveugle un peu et le perturbe beaucoup.
Alors, souvent, justement... Il y a un cliché vous concernant, c'est souvent cette image qui vous colle à la peau de romancier très attaché à la terre, exclusivement briviste ou presque. Là, encore une fois, toute une partie du roman est urbain. D'ailleurs, c'est le cas aussi dans d'autres de vos ouvrages. Mais là aussi, vous cassez ce cliché vous concernant.
Oui, vous voulez parler de ce qu'on appelle les écrivains régionalistes. Or,
qu'est-ce que ça veut dire, écrivain régionaliste?
Pour moi, c'est des écrivains qui écrivent sur le monde naturel, c'est-à-dire le monde rural, le monde provincial. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, mes livres sont traduits en 15 langues, donc ça fait une grande région.
C'est ce que
je dis chaque fois, c'est que je réponds chaque fois. Une grande région. Non, ce qui m'intéresse, moi, en restant dans ce domaine-là, si vous voulez, là, je suis allé vers la ville, mais il y a quand même la moitié du livre qui se passe quand même toujours dans le même milieu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ces gens qui ont voulu garder le contact avec le monde naturel par rapport à ceux qui sont partis dans les grandes métropoles où la vie est devenue très, très difficile aujourd'hui, très, très violente. Je dirais même que dans les grandes métropoles où je vais parfois, les hommes ont retrouvé des réflexes animaux de survie, presque. Hein. Et donc ce contraste, encore une fois, me surprend toujours, moi. Quand je passe des campagnes d'ici, là, quand je vais à Paris, je vois des choses que j'aurais jamais imaginées. Et cette différence... se traduit effectivement dans le livre. Mais ce que je voulais garder, moi, toujours, c'est ce contact avec le monde naturel. D'où mon amour pour le nature writing américain, tous ces auteurs américains qui écrivent sur le monde naturel, que ce soit Jim Harrison, Norman MacLean ou des écrivains de ce genre-là. Il n'y a guère qu'en France qu'on qualifie ces écrivains-là d'écrivains régionalistes, parce que les grands auteurs américains, que ce soit Faulkner ou Caldwell, comme ça, ce sont des écrivains qui écrivaient sur le monde rural. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Faulkner était considéré comme un écrivain paysan à New York. Donc, vous voyez, il n'y a guère qu'en France qu'on établit ce genre de distinction, mais de différence entre les écrivains, alors qu'ailleurs, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, ça n'existe pas.
Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même que malgré tout, c'est un petit peu à la carte cette image, parce que ça c'est aussi un cliché très, très parisien, voire parisianiste. Certains auteurs, on leur enlève ça, par exemple, que ce soit Marie-Hélène Lafont, que vous connaissez, Pierre Bergougnou, ou
Franck
d'autres. Oui, ben voilà, par exemple, eux, non, on leur met pas forcément cette image. Comment vous expliquez cette, parfois, différence de traitement? C'est-à-dire que vous évoquez une terre, mais d'un individu à l'autre, d'une langue à l'autre, vous êtes de tel ou tel côté. Comment vous expliquez ça, cette différence d'accueil ?
Le fait qu'ils ont évolué, eux, beaucoup plus que moi, vers les villes et vers les milieux intellectuels des grandes villes, qu'ils ont fréquenté plus fréquemment, plus assidûment que moi, qui ne le fréquentent pas, ou très très peu, sauf par l'intermédiaire du service de presse et de la maison Albin Michel, qui est quand même une maison d'édition.
Et que vous citez d'ailleurs dans le livre à un moment.
Voilà. Une maison d'édition très très puissante et très organisée. Hein. Mais heureusement, parce que tous ceux qui écrivent des livres et qui sont restés dans la région sans pouvoir mettre les pieds dans une grande maison d'édition ont beaucoup souffert de ça. Alors que moi, je n'en souffre plus depuis longtemps. C'est-à-dire que au début, mes livres se vendaient sans critique littéraire. Et puis finalement, comme ils arrivaient toujours dans la liste des best-sellers, les critiques parisiens, finalement, sont venus voir de quoi il s'agissait. Et depuis, tout ça s'est bien amélioré. La presse parisienne est devenue beaucoup plus favorable qu'elle n'était au début.
Alors, vous avez évoqué vos nombreuses traductions. Moi, je suis curieux de savoir, dans quel pays particulièrement, on aime Christian Signol et ce que vous décrivez passionne les gens. Ça, je suis curieux.
Alors, ça se vend beaucoup en Allemagne, plus qu'ailleurs, mais en Espagne, mais aussi en Israël. Je suis traduit en hébreu, en allemand, en espagnol, en hongrois. Je pense qu'il s'agit de pays pour lesquels le milieu rural a été le même. Je reçois beaucoup de lettres d'Allemagne, de gens qui sont du milieu rural allemand et qui m'expliquent qu'en réalité, eux ou leur famille ont vécu un peu la même chose que ce que nous avons vécu en France. Donc je pense que ça, c'est le succès de ces livres à l'étranger, et notamment en Allemagne. Mais bon, l'Allemagne aussi, ça s'explique par le fait que je parle beaucoup souvent de la guerre de 14, de la résistance et de 39-45. Hein, donc tout ça s'explique aussi très bien.
Christian Signol, par ailleurs, votre livre est un vrai plaisir de lecture, insistons là-dessus. Vous êtes vraiment un vrai raconteur d'histoire. Et en lisant ce qui se passe dans votre livre, on se dit quelle formidable série télé ça ferait. Est-ce que vous regardez beaucoup de séries télé ? Tiens.
Je regarde pas beaucoup de séries télé, mais j'ai eu quand même beaucoup de livres adaptés à la télévision.
Justement. Et puis avec quel succès d'ailleurs ?
Avec succès, La Rivière Espérance de José Dayan s'est vendu dans 20 pays étrangers, dont la Chine. Et puis il y en a eu plusieurs.
C'est incroyable, ça a été un épisode étonnant. Ça.
Oui, c'est très étonnant. Et récemment, Les Enfants des Justes. L'automne dernier, avec Philippe Torreton, Mathilde Seigné.
Qui avait été un très beau succès d'audience.
Et ça a été le plus grand succès d'Antenne 2 depuis 10 ans, en matière de téléfilm. Hein. Mm-hmm. Donc ça prouve quand même qu'il y a moyen de nouer le contact avec ce genre-là, avec l'image. Bien qu'aujourd'hui, effectivement, les séries télé sur les nouvelles chaînes, TF1, Netflix et tout ça, ce ne soit pas exactement les mêmes sujets qu'ils prennent en compte. Et c'est devenu de plus en plus difficile. Mais par exemple, pour le livre de l'année dernière qui s'appelait « L'école des beaux jours », on est en contact déjà et on est dans les repérages par rapport au village où normalement on doit tourner avec Fabien Antoniente, qui a fait « Les enfants des justes ».
Absolument, c'était lui. Donc souvent on le considérait comme le réalisateur de camping et de choses un petit peu plus légères. Là, il avait radicalement changé.
Il a voulu
évoluer
vers quelque chose de plus grave, de plus important, au lieu de faire des films comiques, un peu grand public, trop grand public.
J'ai utilisé ce terme, raconteur d'histoire. Vous êtes un vrai raconteur d'histoire, Christian Signol. Justement, moi, j'aimerais connaître un petit peu votre mécanique. Comment est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous travaillez avec déjà une idée très précise du contenu, presque chapitre par chapitre ? Vous connaissez vraiment le destin de vos personnages dès le départ, lorsque vous vous lancez dans l'écriture ? Ou au contraire, c'est assez libre et c'est un petit peu au fur et à mesure ? Comment est-ce que vous travaillez, Christian
Signol ? Je sais à peu près d'où je pars, où il faudrait arriver. Et je connais également les grands moments de l'histoire, si vous voulez. Mais il ne faut pas faire... Je ne fais jamais un plan très, très précis, il ne faut pas. Parce que sinon, on est trop prisonnier. Et puis, il faut quand même que, de temps en temps, les personnages se mettent à vivre tout seuls et nous fassent quelques surprises. Sinon, ce serait beaucoup trop difficile d'écrire des livres. Et d'ailleurs, à partir du moment où les personnages nous échappent et se mettent à vivre seuls, c'est toujours très bon signe. Ça veut dire que s'ils se mettent à vivre seuls, c'est qu'ils sont vraiment, ils sont vivants. Alors qu'eux, ils n'existent pas. Ce sont des personnages de romans. Et je ne sais plus qui disait, c'est un auteur qui disait « Quand j'écris, je crois en Dieu ». Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on crée des personnages qui n'existent pas, mais qui deviennent vivants, finalement, à qui on donne la vie.
Alors, si votre roman est aussi très réussi, c'est que tous vos personnages à la fois représentent quelque chose, font sens, sont presque des symboles, mais en même temps, vous n'oubliez jamais de les humaniser pour qu'ils aient leur singularité, leur personnalité, et ne tombent pas dans le cliché. Justement, comment vous faites pour composer un personnage tel que celui-ci ? Tiens, voilà. Et Antoine, par exemple, tout bêtement, puisqu'on l'a évoqué.
La clé, c'est de les typer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, ou dans le caractère ou dans le physique, quelque chose d'un peu, pas extraordinaire, mais pas ordinaire en tout cas. Et quand je crée des personnages très, très, vraiment très importants, bon, Antoine, c'est un peu moins, mais quand j'ai créé le personnage de la mère, la mère du village, dans le livre précédent, je pensais à Annie Girardot, c'est-à-dire quelqu'un, une femme très, très, très énergique, vous voyez, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de... Voilà. Donc j'ai quand même toujours une image au départ, parce que, bon, on met longtemps à écrire un livre, c'est souvent un an ou davantage, et il ne faut pas les perdre de vue, hein, sinon le livre perd un peu en authenticité, vous voyez, donc il faut faire très attention à ça, je les type toujours. Et avant d'écrire, de commencer à écrire le roman, j'ai des fiches. Je fais des fiches pour chacun des personnages.
Alors, encore une fois, on voit toute l'évolution, les mutations de la France dans l'histoire que vous décrivez. Et puis, tiens, on va prendre un exemple. Par exemple, vous montrez tout au fil des pages, des années 60 jusqu'à pratiquement aujourd'hui, toute l'évolution de la gauche, par exemple.
De la gauche ?
Ah oui.
Oui. Je ne me suis pas rendu compte.
Ah oui, bah, il y a les années Mitterrand, il y a le passé de votre personnage jusqu'à aujourd'hui.
Il y a les années Mitterrand.
Vous voyez, c'est presque inconscient.
Il y a les années Giscard, il y a les années Chirac, il y a les années
Non, mais par rapport aux valeurs de certains personnages clés du livre, on y pense.
Oui, sans doute. Bon, peut-être parce que ce sont des enseignants. Et puis en banlieue parisienne, oui, sans doute. Oui, mais mais ce n'est pas un livre politique, hein, c'est plutôt un livre social. Ah
bah, disons-le, oui, bien sûr, c'est un livre social, sociétal, voilà. Mais il n'est pas du tout dans un conditionnement politique, non. Mais juste vous le montrez fait à travers vos personnages.
Sans doute, mais naturellement. Hein, je pense que les enseignants étaient naturellement un peu plus à gauche. Et la nouvelle génération, c'est un peu le contraire quand même. C'est la génération de la réussite, quoi, finalement. Hein, de la grande réussite. Mais finalement, le plus important, me semble-t-il, quand même, c'est cette évolution très rapide qui a abouti au monde d'aujourd'hui, et je dirais au monde de la violence et du terrorisme, parce que je voudrais quand même expliquer quelque chose à ce sujet. C'est que pour moi, il y a 10 ans de ça, le terrorisme, c'était quelque chose de très lointain, de très vague et tout ça. Et puis, du jour au lendemain, moi, j'ai eu 2 amis qui étaient chez Charlie Hebdo. Dont Philippe Lançon, qui est sorti défiguré et qui a écrit Le Lambeau, etc. Et puis surtout Bernard Maris, parce que Bernard Maris, c'était le compagnon de Sylvie Genevoix, qui était ma directrice littéraire chez Albin Michel. Il était originaire de Toulouse, donc je le connaissais bien, très très bien. Et ce jour-là, je me souviens qu'on le cherchait partout. Hein. Donc vous voyez, d'un terrorisme très lointain, moi, le 7 janvier, je crois, 7 janvier 2015, tout ça est devenu tout d'un coup très, très présent. Ce jour-là, pour moi, le monde a beaucoup changé.
Ça, vous l'évoquez évidemment à la fin du livre. Autre aspect où vous montrez justement une évolution, c'est notre rapport à la protection de la terre et à la question de l'environnement. Ça, c'est très, très présent dans une famille française.
C'est très présent parce que c'est un sujet d'aujourd'hui quand même, hein, et puis qui me préoccupe beaucoup aussi, hein, le changement climatique, etc. Alors donc, il y a un des personnages quand même qui est resté à la terre, c'est-à-dire à la campagne, qui lui évolue. C'est-à-dire qu'il abandonne les engrais chimiques et il essaye d'évoluer vers le bio dans des conditions difficiles. Mais bon, j'essaye de montrer quand même que c'est peut-être un peu la solution, l'avenir. Enfin, du moins, je l'espère. Je n'ai pas voulu rester sur des notes de changement climatique catastrophique. Au contraire, d'ailleurs, les personnages, d'une manière générale, sont plutôt optimistes, quoi, plutôt chaleureux, plutôt optimistes. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire.
Alors, Christian Signol, aussi, vous montrez la réussite de certains personnages. Vraiment, on passe vraiment d'un degré très, très bas, entre guillemets, de la société aux hautes sphères de la réussite avec tout ce que ça peut entraîner. Mais justement, pour en revenir à ce qu'on disait au début, est-ce que cette mutation, elle n'est pas trop rapide et des crispations de la société française actuelle, elles ne sont pas le fruit de ça, justement ?
Elle est trop rapide, beaucoup trop rapide aujourd'hui. On voit bien qu'avec les réseaux sociaux, les influenceurs et tout ça, le monde change à une vitesse extraordinaire. Et ça perturbe tous les milieux, y compris le milieu de l'édition d'ailleurs, parce qu'on voit apparaître dans l'édition des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux et dont les éditeurs font des livres, avec des domaines nouveaux comme les feel goods, ce qu'on appelle les feel goods, c'est-à-dire le bien vivre, tout ça. Et puis les romances qui sont venues après 50 nuances de degré, les éditeurs sont engouffrés dans la brèche, si je puis dire. Et donc, j'avais un libraire hier, le libraire où je signe, qui m'expliquait que, par exemple, pour les romances, on appelle ça les romances, ce sont des sujets un peu érotiques, légèrement, là, tout ça, il a été obligé d'ajouter 3 étagères. Hein. Donc, l'édition bouge beaucoup, ce qui interroge beaucoup les éditeurs, les écrivains aussi, je suppose, hein, et tout ceux qui vivent dans le domaine du livre, quoi.
J'ai pensé, vous avez évoqué Toulouse, on retrouve d'ailleurs Toulouse dans le roman, et quand je lis Une famille française, moi ça, je pense à un roman de Jean-Paul Dubois, un Toulousain,
oui,
Une vie française, moi j'y pensais beaucoup.
Oui.
Est-ce que ça a été une de vos influences, ou en tout cas une petite proximité par rapport à l'écriture de cet ouvrage? Il avait eu le prix Femina d'ailleurs.
Oui, j'y ai pas pensé au début, j'y ai pensé au moment où j'ai écrit les événements de mai 68 à Toulouse. Parce que lui, il en a beaucoup usé, enfin, je veux dire, il les a utilisés. Et donc, moi, c'est venu naturellement, puisque Antoine était étudiant à Toulouse. Hein. Donc, mais j'ai pensé à ce moment-là, mais pas au début. Mais je connais bien le roman de Dubois qui s'appelle Une vie française.
Oui, oui. Et le parallèle, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, c'est assez amusant de voir les ponts entre les deux.
Oui.
En tout cas, c'est assez amusant.
Sauf que pour Dubois, il ne parle pas de la campagne, jamais.
Non, pas du tout.
Quelqu'un de la ville,
juste
et ses parents également.
Ouais. Le regard sur l'évolution de la société française à travers la Ve République. Christian Signol, aussi, ce qui est troublant à plusieurs passages, c'est qu'évidemment, quand on lit un roman tel que celui-ci, on sait qu'il va y avoir des disparitions de personnages à un moment ou à un autre. On sait que c'est toujours inévitable. Est-ce que justement... se séparer d'un personnage, tuer un personnage, est-ce qu'il y a quelque chose de douloureux pour l'écrivain ou pas?
Oui, ça dépend lesquels. Il y a des personnages attachants et il y a des personnages qui le sont moins.
Je ne veux pas révéler, mais il y a un personnage pour qui, en le lisant, on a quand même particulièrement la larme à l'œil par rapport à son destin.
C'est la mère d'Antoine, oui. Oui, parce que c'est une femme.
Et puis même ce personnage qui va souffrir justement de la terre et de ses...
Et son père aussi, oui, oui. Oui, parce qu'ils ont une vie extrêmement difficile et courageuse et qui les a finalement épuisés. Et donc, les dernières années de leur vie sont effectivement très, 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 très difficiles. Mais d'un autre côté, vous savez, il y a des personnages qu'on tue facilement, hein, dont on se débarrasse facilement. Hein. C'est pas le cas dans ce roman, mais ça arrive quelquefois. Notamment dans les romans où il y a beaucoup d'événements historiques, mais de la grande histoire, quoi. À ce moment-là, c'est déjà beaucoup plus facile de les éliminer.
Alors, quand on est dans une entreprise romanesque telle que celle-ci, explorant toute cette histoire qu'on connaît tous, histoire récente, comment on détermine les événements clés avec lesquels on va jouer avec la connaissance, le souvenir du lecteur? Comment on met sa fiction, son histoire, avec ces éléments clés? Vous avez cité par exemple les attentats, on aurait pu parler de l'élection de Mitterrand, d'autres. Comment on détermine ces éléments?
Mais c'est très facile, parce qu'on les rencontre. Comme on explique, on raconte la vie des gens au cours du temps, si vous voulez, au cours des années, forcément, on rencontre les événements historiques des années en question. Ça a été le cas, là, on rencontre la chute du mur de Berlin, l'entrée dans l'euro, les élections, les attentats de New York. Enfin, on les rencontre naturellement à partir du moment où on tombe dans l'année en question. Et c'est pas comme avant. Maintenant, tous ces personnages-là, même ceux de la campagne, sont au courant de ce qui se passe. Avant, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, ils les rencontrent naturellement. Non pas qu'ils lisent beaucoup les journaux, mais ils regardent beaucoup la télévision. Enfin, du moins les informations, beaucoup plus que les autres émissions. Et donc, ils y font face tout à fait naturellement.
Christian Signol, par ailleurs, est-ce que aussi dans ce roman, vous êtes posé la question de, j'allais dire, du rapport à l'histoire individuelle des lecteurs, que chacun se reconnaisse dans cette famille, une famille française, comme je disais tout à l'heure, c'est la vôtre, c'est la mienne, c'est la nôtre.
Oui.
Est-ce que aussi vous êtes posé cette question de cette capacité à se reconnaître,
oui,
dans ce destin?
Oui, dès le début. Hein. Mais j'écris ce livre un peu pour ça, d'ailleurs, pour que tout le monde se reconnaisse, dans le maximum de lecteurs se reconnaissent dans ce livre, parce que tout ça me paraissait, encore une fois, symbolique. Il y a bien, je pense, 60% des familles françaises qui ont suivi ce chemin, hein, de la paysannerie à l'université en 3 générations. Je le pense. C'était le cas de ma famille, mais de nombreuses familles aussi que je connais bien. Donc, par exemple, j'ai un ami, Pierre Bergognon, ses grands-parents étaient paysans, ses parents étaient instituteurs, et lui, enseignant à Gif-sur-Yvette, enfin, il était en banlieue, vous voyez, des gens comme ça. Ça m'a paru tout à fait symbolique, et de ce point de vue-là, très intéressant, parce que j'écris toujours des livres dans lesquels les gens peuvent se reconnaître. Finalement, j'écris l'histoire de leur famille, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont perdu, aussi beaucoup, parce que ces livres se vendent dans le milieu rural et en province, mais ils se vendent aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on croit dans les villes. Pour les gens qui sont d'origine rurale et qui ont été obligés de partir en ville et qui sont un peu à la recherche de ce qu'ils ont perdu. C'est ça un peu la clé aussi. C'est dans la mémoire collective. Et ça leur fait du bien de retrouver un peu leur racine, leur enfance et leur jeunesse la plupart du temps.
Vous touchez le Nivernais en moi qui est parti à Paris pour bosser, en tout cas. Christian Signal, aussi, dans ce roman, vous revenez, par exemple, sur... J'essaye de parler en codé pour ne pas gâcher le plaisir, parce que ça, c'est très important de savoir ce qui va se passer. Il y a un des personnages qui va ouvrir la famille française à l'international. Pour parler aussi, oui. Donc une famille française, j'allais dire, elle ne va pas être que française, votre famille. Est-ce que ça aussi, vous voulez montrer qu'il y a aussi une ouverture vers le monde ?
D'ailleurs, c'est dédié à tous mes petits-enfants, désormais citoyens du monde. Mais tout simplement pour la bonne raison que j'ai une petite fille qui vit à Paris, mais j'ai une petite fille qui vit à Madrid, enfin qui fait des études à Madrid, et ils voyagent beaucoup, cette génération-là. Ce n'est pas une génération qui reste en France et qui forcément va travailler en France. Ils ont travaillé la plupart du temps à l'étranger. Donc ça m'avait beaucoup frappé, moi, cette petite fille qui s'appelle Lise, qui est à Madrid, elle étudie à Madrid, et l'autre, elle est partie en Amérique du Sud, vous voyez. Donc je l'ai utilisé dans ce livre parce que, encore une fois, ça m'a paru logique et naturel, comme tout ce que je fais, tout ce que j'écris.
Ouais, on va partir sur un autre continent qu'on n'a pas évoqué jusqu'alors. Bon, je vois que le temps avance, on discute tranquillement, mais ce serait peut-être bien de laisser la parole à tous ceux qui sont présents dans la salle et qui sont certainement des fidèles lecteurs de votre œuvre. Alors, moi ça va, j'ai encore des questions, mais c'est aussi bien de vous laisser la parole. Alors, qui se lance ? On a un micro.
Des questions à poser.
Ou remarques, comme vous le souhaitez.
Personne.
Oui, madame, au deuxième rang, on va vous donner un micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Nous vous écoutons, madame.
Simplement, je suis contente de savoir que vous avez une petite fille à Madrid.
Ah oui.
Alors, vous comprenez pourquoi ?
Oui, oui, absolument. Je sais que vous êtes d'origine, votre mari est d'origine espagnole. Oui, oui, je me souviens. Oui, oui.
D'autres interventions ? Oui, au premier rang, attendez, pour qu'on puisse vous entendre. Ah, ce sont les aléas des lois acoustiques. Voilà, la parole est à vous.
Bonjour. En fait, ce n'est pas une question, c'est juste parce que le livre, je l'ai lu également. Et je n'ai pas lu énormément de livres de M. Signol, mais je pense que je vais m'y atteler, prendre toute la liste et reprendre dès le départ.
C'est gentil.
J'ai vu le livre aussi sur les justes, le film.
Les enfants des justes.
Les enfants des justes, qui est formidable. Donc je vais lire le livre, parce que souvent le livre est encore mieux que le film.
Souvent.
Et donc là, par rapport à celui-là, alors j'avais commencé par un autre aussi, c'était où les valeurs de la terre étaient bien mises, j'ai plus le titre, où c'était l'arrière-grand-père, en fait, qui revenait dans sa maison, parce que c'est le petit-fils.
Même les arbres s'en souviennent.
Voilà, ouais. Formidable aussi, j'ai vraiment adoré, par rapport aux valeurs, justement. Qui sont toujours transmises à travers cela. Et c'est vrai qu'on devrait presque même lire à l'école, je pense. Et ce livre-là, je le trouve vraiment très simple, en fait, mais lourd de sens. Parce qu'en fait, tout y est dit. Et comme vous dites, vous reprenez aussi les éléments de la vie, de tout ce qui se passe au niveau de la société. Et vous allez même jusqu'aux chansons. Donc là, on se revoit en train d'écouter dans notre chambre des choses.
Il y a des
aussi.
Chansons, il y a des films.
Il y a de tout.
Voilà.
En fait, c'est hyper complet parce qu'on se dit, c'est simple. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça, et c'est ce que je tenais à soulever, parce que c'est fluide, bien sûr, dans l'écriture, comme toujours, alors c'est agréable à lire. Mais par contre, c'est quelque chose qui laisse... Enfin, la réflexion est là, parce qu'effectivement, il y a trois générations, comme vous dites, mais on voit, ça file tellement vite qu'on se dit qu'on lit le livre aussi facilement et assez vite, Mais après, on revient dessus et on se dit, mais en fait, tout ce qui s'est passé, c'est énorme. Donc, c'est une mine d'or dans ce livre. Voilà, ce n'était pas des questions. Mais...
Oui, non, mais c'est énorme et c'est volontaire. J'ai voulu, dans la deuxième partie, montrer justement à quelle vitesse les choses se produisaient. Et donc, les gens qui me lisent...
Et s'enchaînent.
Et donc, mon éditeur m'a dit, mais vous êtes sûr que... Cette deuxième partie va quand même beaucoup plus vite que la première partie qui se passe davantage dans le milieu provincial. Mais je lui dis, mais c'est volontaire. C'est pour montrer à quel point c'est allé vite. Et effectivement, on le sent très bien dans la deuxième partie du livre. Enfin, du moins, je le crois. Oui.
Aussi, une petite question, vraiment. Ça, c'est aussi la technique de l'écriture. Quand on est dans une œuvre de ce type-là, on a forcément beaucoup de personnages, on a des liens entre ceux-ci. Ça fait beaucoup d'informations pour le lecteur. Or, vous l'avez lu, madame, c'est d'une fluidité absolue, on ne se perd absolument jamais. Comment on travaille justement cette matière ? Beaucoup d'informations et en même temps, ça n'a aucune importance. Le lecteur, on sait qu'il aura l'essentiel.
C'est beaucoup plus facile qu'avant, maintenant, avec Internet. Bon, avant, il fallait aller puiser dans les bibliothèques, etc. Aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question, si vous voulez, mais à partir du moment où je suis, je ne sais pas moi, en mai 68... Bon, je vais chercher les éléments sur Internet, tout ça, mais ponctuellement. Vous voyez, donc ça ne m'encombre pas. Je ne m'encombre pas la tête avec tous les éléments qu'il faut relater jusqu'à la fin du livre. J'y vais au coup par coup. Donc c'est finalement assez facile. Et bien, encore une fois, je les rencontre tout à fait naturellement. Hein. Quand je suis en mai 68, je suis à Toulouse. Bon, les attentats terroristes, c'est pareil. Les élections de Mitterrand, Chirac, tout ça, ça arrive tout à fait normalement. Mais je ne puise les informations que lorsque j'en ai besoin, pour ne pas m'encombrer la tête. Sinon, c'est trop difficile. Effectivement, ce que vous dites, ce serait trop difficile.
D'autres questions, interventions ?
Peut-être que nous avons fait le tour de la question.
Quelque chose comme ça. Et surtout, encore une fois, je ne peux que vous engager à lire Une famille française, un vrai plaisir de lecture, signé Christian Signol. Voilà, vraiment, on ne peut que vous le recommander à dévorer, ça va vous rappeler plein de choses. Et puis, vous aurez une petite larme à plusieurs moments, certainement. Vous aurez même aussi des sourires. C'est une très belle réussite que ce cru 2023, Une famille française. Christian Signol chez Albin Michel. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
On va vous retrouver à votre tête de dédicace.
Au revoir, merci.
Passez une très bonne fin de soirée à tous et à tous. Merci.